Habituellement, quand on lit un récit épique, que ce soit un roman policier bien haletant ou, je sais pas, une grande tragédie antique, bah, y a un rythme très précis.
Ouais, une sorte de montée en puissance, tout à fait.
Voilà, une montée en puissance super calculée. Donc, faut vraiment s'imaginer la scène. On se trouve à la toute dernière minute du dernier acte.
Le climax, quoi.
Exactement. Le protagoniste, qui a littéralement tout perdu, sa famille, sa santé, sa dignité, bah, il se tient là, dans la poussière,
Et il est au bout du rouleau.
complètement. Et là, il vient de prononcer son serment d'innocence ultime. Il a, de manière assez audacieuse d'ailleurs, jeté le gant à la figure du créateur de l'univers en exigeant une réponse.
C'est le moment de vérité.
C'est ça. Le suspense est à son comble. On retient son souffle en se disant, est-ce que le ciel va se déchirer? Est-ce que la foudre va frapper cet humain insolent pour le réduire en cendres?
On attend tous l'intervention divine, c'est clair.
Et là, et c'est un peu comme si on regardait la finale de la Coupe du Monde, tu vois.
Ouais.
Le stade est silencieux. Le joueur vedette s'élance pour tirer le pénalty qui va décider de tout. Son pied va toucher le ballon et soudain, bah, l'écran devient noir.
Ah, la frustration totale.
C'est ça. À la place, on a droit à une interminable page de publicité pour des assurances vie. D'accord. Décortiquant tout cela, parce que c'est l'un des moments les plus déroutants de la littérature antique.
Et c'est exactement ce puzzle littéraire qu'on va aborder pour notre exploration du jour.
Absolument. Aujourd'hui, on se penche sur les chapitres 32 à 37 du livre de Job en s'appuyant sur les travaux du docteur John Woolton.
Une session fascinante, la session 20 d'ailleurs.
Ouais, parce qu'après les longs cycles de débats entre Job et ses trois amis, au moment précis où on attend Dieu, bah, un nouveau personnage surgit de nulle part.
Un certain Élihu.
Voilà. Et il se lance dans un monologue qui semble ne jamais vouloir s'arrêter. Donc notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre, est-ce que ce jeune homme est une simple erreur de montage?
C'est la grande question.
Genre un ajout maladroit d'un scribe, ou bien est-ce un vrai génie narratif?
Ce qui est fascinant ici, c'est que, historiquement, beaucoup de commentateurs ont penché pour l'erreur de montage, en fait.
Ah ouais?
Ils le voyaient vraiment comme un intrus. Ouais, complètement. Un électron libre qui viendrait parasiter la structure du livre. Mais si on regarde la construction de l'œuvre, c'est une stratégie brillante du compilateur.
Brillante dans quel sens? Parce que c'est hyper frustrant à lire.
Bah, c'est exactement ça le but. Il utilise ce discours délibérément pour faire mijoter le lecteur. C'est une salle d'attente insoutenable. On veut Yahvé, on veut la conclusion, et on nous force à écouter une voix humaine de plus.
Une sorte de cocotte-minute intellectuelle, quoi.
C'est ça, on accumule la pression avant de laisser place à la voix de la tempête.
D'accord. Mais alors, qui est ce fameux Élihu? Parce que jusqu'ici, on avait un casting très fermé, juste Job et les trois vieux sages.
Eh bien, Élihu se distingue tout de suite. Déjà, contrairement aux trois amis de Job, qui ont des noms liés à des régions extérieures, une sorte de sagesse internationale de l'Orient, lui, il a un nom hébreu très clair.
Et ça veut dire quoi, Élihu?
Ça signifie « il est mon Dieu ».
Ah, donc ça plante direct le décor sur son allégeance, en fait.
Absolument. Il est dans le camp de Dieu. Et puis, il y a son âge. Il se présente comme un jeune homme.
Ce qui devait être un gros problème à l'époque, non?
Complètement. La norme culturelle du Proche-Orient ancien, c'était que les jeunes devaient se taire et écouter les cheveux blancs. Et il a respecté ça, jusqu'à son point de rupture.
Ouais, dit même qu'il boude l'intérieur, c'est ça.
Exactement. Au chapitre 32, il décrit ça de façon super physique. Il est plein de mots, comme une outre de vin prête à éclater. La colère le pousse à briser le protocole.
C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce que intervenir comme ça, c'est un acte de subversion incroyable.
C'est une transgression majeure de l'ordre social, oui.
Se lever devant des sages vénérables et leur dire vous n'avez rien compris et à Job, tu es dans l'erreur. Mais si ce jeune homme finit par avoir plus raison que les vieux sages, pourquoi les spécialistes l'ont-ils souvent considéré comme un intrus illégitime?
Bah, justement parce qu'il rend les lecteurs mal à l'aise avec cette transgression. Mais l'ironie, c'est que théologiquement, c'est lui qui construit l'argumentaire humain le plus solide du livre.
D'accord. Alors comment il s'y prend?
Pour comprendre, il faut visualiser ce qu'on appelle souvent le triangle de Job.
Ah oui, le fameux triangle. Posons bien ce concept pour tout le monde.
Alors, ce triangle logique a trois points fondamentaux. Premier point, Dieu est juste et bon.
Ok, la base.
Deuxième point, Job est un homme intègre, innocent. Et troisième point, le principe de rétribution.
C'est-à-dire l'idée que les justes sont récompensés et les méchants sont punis.
Exactement. Le problème, c'est que, avec la souffrance extrême de Job, c'est impossible de maintenir ces trois points en même temps.
C'est mathématiquement impossible, ouais.
Voilà. Si Dieu est juste et que la rétribution fonctionne, alors Job ne peut pas être innocent. Ça, c'est ce que disent les trois amis.
Ils ont sacrifié l'innocence de Job pour garder le reste.
Tout à fait. Et Job, lui, sait qu'il est innocent. Donc, dans son désespoir, il en vient à sacrifier le premier point.
Il remet en question la justice de Dieu.
C'est ça. Et c'est là qu'Elihu intervient. Lui, il refuse catégoriquement de sacrifier la justice de Dieu. Il construit un fort immense dans le coin de Dieu.
Son but, c'est vraiment la théodicée, la défense de Dieu, quoi qu'il arrive.
Absolument. Mais pour réussir là où les amis ont échoué, il comprend qu'il doit modifier un des angles du triangle. Et il s'attaque au principe de rétribution.
Ok, c'est là que la mécanique devient fascinante. Parce que les vieux amis disaient « Si tu souffres aujourd'hui, Job, c'est l'addition pour un péché commis hier. »
Une logique purement punitive, oui.
Le crime avant le châtiment, classique. Alors comment Elihu change ce logiciel moral sans dire que Dieu ne punit pas le mal ?
Eh bien, il explique que la justice ne regarde pas seulement dans le rétroviseur. Elle peut anticiper. Il introduit l'idée d'une souffrance préventive.
Préventive, c'est-à-dire ?
Selon lui, Dieu ne frappe pas juste pour punir une faute passée. Il peut utiliser la souffrance comme un appât pour éviter une catastrophe future ou pour faire ressortir un comportement offensif qui est encore caché.
Mais attends, c'est carrément le concept du film Minority Report, ça, non ?
Ah, l'analogie est intéressante, ouais.
Bah oui, punir les gens avant même le crime, juste parce qu'on a détecté qu'ils pourraient faire une bêtise un jour. Ou alors, c'est comme administrer un vaccin hyper douloureux pour éviter une maladie pire.
C'est une bonne comparaison. Mais il faut y apporter une nuance cruciale. Dans Minority Report, c'est utilitaire, c'est pour protéger la société.
Et là, ce serait quoi le but ?
Pour Elihu, c'est plus intime. Il ne s'agit pas de neutraliser Job, mais de le raffiner. La souffrance est un catalyseur pour forcer une impureté latente à sortir.
Je comprends la nuance, mais franchement, ça soulève une objection morale hyper forte.
Tu trouves ?
Bah oui. N'est-ce pas profondément injuste d'imposer une souffrance extrême, de ruiner la vie d'un homme, juste pour voir s'il va craquer, ou pour un péché qu'il n'a même pas encore commis ?
Ce malaise que tu décris, c'est exactement la limite de son système. Il est tellement obsédé par la nécessité de justifier Dieu qu'il est prêt à rationaliser l'horreur.
C'est le prix à payer pour son équation, quoi.
C'est ça. Mais il faut quand même lui accorder une chose. En observant la réaction de Job, Elihu touche un point sensible. L'appât a fonctionné, l'épreuve a fait émerger quelque chose de problématique.
C'est vrai que Job s'est un peu emporté, mais en t'écoutant dire qu'Elihu s'attaque à l'attitude présente de Job, ça me rappelle énormément le début du livre.
Si l'on relie cela à la vision d'ensemble, c'est un parallèle littéraire brillant. Elihu joue un rôle qui est le miroir parfait du challenger, l'adversaire du prologue.
L'adversaire qui remettait en question les motivations de Job au tout début.
Exactement. Le challenger disait « Job te sert juste parce que tu le protèges ». Elihu, lui, va plus loin. Il attaque la justice même de Job pendant les débats.
Il ne l'accuse pas d'un truc vague dans son passé, il l'accuse de ce qu'il est en train de faire en direct, en fait.
Voilà, c'est la seule accusation spécifique de tout le livre. Elihu l'accuse du péché d'autosatisfaction, de justification de soi.
Et sur ce point, il a raison.
Totalement raison. Dans son besoin désespéré de prouver son innocence, Job a fini par se défendre aux dépens de Dieu. Il a sous-entendu que Dieu était devenu un tyran arbitraire.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Pourquoi le besoin de se justifier est considéré comme un péché si grave que ça justifierait les tourments de Job ?
Parce qu'il y a une différence énorme entre clamer son innocence et rabaisser le Créateur pour sauver sa propre fierté. Hurler sa douleur, c'est autorisé. Mais s'asseoir sur la chaise du juge pour condamner Dieu, c'est franchir la ligne rouge.
Job exige que Dieu se plie à sa définition humaine de la justice, en fait.
Exactement. Et Elihu perçoit ça comme une arrogance intellectuelle majeure. Et là-dessus, l'appât préventif a révélé cet orgueil.
D'accord, donc Elihu a raison sur l'autosatisfaction. Mais on sait qu'il finit quand même par rater la cible finale. C'est quoi son erreur de jugement ?
Son erreur, c'est qu'il se trompe lourdement sur les motivations profondes de Job. Il l'analyse à travers le prisme de la grande symbiose.
Ah, la grande symbiose. Faut qu'on explique ça, c'est hyper important pour le contexte.
C'est l'idée d'une transaction spirituelle. Le distributeur automatique cosmique. Je mets mes bonnes actions et Dieu me donne la prospérité.
Le fameux contrat divin.
Voilà. Élie croit que Job s'accroche toujours à ça. Il pense que Job est juste en colère parce que la machine est cassée et qu'il veut son retour sur investissement.
Mais Job a déjà largement dépassé ça, non? Il a prouvé que la prospérité à tout prix, c'est plus son moteur.
Totalement. Même au fond du gouffre, Job cherche une relation avec Dieu, une audience, pas juste récupérer ses moutons. Élu passe complètement à côté de cette noblesse spirituelle.
Il a la théorie parfaite, mais il lui manque l'empathie. Parce que sur la théorie, ce qu'élu comprend de Dieu, c'est très juste, non?
Oui, il a une vision très élevée et correcte. Dieu n'a pas de compte à nous rendre, sa justice est inattaquable. L'idée même de corriger Dieu est absurde pour Élu.
Il prépare vraiment le terrain pour Yahvé, du coup.
Absolument. Mais cela soulève une question importante. Pourquoi Élu n'a-t-il pas complètement raison, au final?
Bah oui, s'il a la bonne théologie descriptive, pourquoi Dieu l'ignore à la fin?
Parce qu'il tombe dans le même piège que Job, le piège de la théodicée. Il surestime dramatiquement sa capacité humaine à rendre le monde cohérent avec sa seule logique.
Ah! Il croit toujours qu'une simple équation de justice peut expliquer l'univers.
C'est exactement ça. Il remodèle le triangle, mais il reste coincé dedans.
En fait, c'est comme quelqu'un qui essaie de résoudre un Rubik's Cube géant dont les couleurs changent tout le temps.
J'aime beaucoup cette image.
Les vieux amis, ils essayaient de forcer les pièces classiques du Rubik's Cube pour que justice et punition s'alignent. Ça marchait pas. Élu arrive, il ajoute la variable préventive, une sorte de quatrième dimension, et il se dit « Bingo, j'ai trouvé le bon algorithme mathématique ».
Il est persuadé d'avoir sauvé le système divin avec ça. Mais le système divin est infiniment plus vaste qu'une simple équation comptable.
La grâce, la création, ça rentre pas dans un tableau Excel, quoi.
Absolument pas. Et c'est cette impasse de la raison humaine qui rend l'intervention de Dieu dans la tempête absolument indispensable.
Waouh, ça change vraiment tout de voir ça sous cet angle. Pour notre public qui nous écoute, cette plongée démontre vraiment le danger de l'autosatisfaction.
Oui. Cette tendance qu'on a tous à accuser l'univers pour préserver notre innocence.
C'est ça. Mais surtout, ça pointe du doigt l'hubris incroyable qui consiste à vouloir, à tout prix, faire entrer les tragédies de la vie dans une équation logique humaine.
L'équation, c'est le refuge pour gérer l'angoisse de l'incontrôlable. Mais c'est une illusion.
Et ce besoin viscéral de tout expliquer, ça m'amène à une réflexion finale, en fait. Une pensée à méditer pour tous ceux qui nous écoutent. Si nos plus grandes souffrances ne sont ni une punition pour le passé, ni même un outil préventif froidement calculé pour révéler nos failles futures, mais qu'elles relèvent d'une sagesse qui échappe totalement à notre notion mathématique de l'équité, comment est-ce que ça devrait changer radicalement notre façon d'agir? Quand on essaie de consoler un ami qui traverse une épreuve terrible, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux abandonner notre besoin de tout expliquer, de lui trouver une équation rassurante pour simplement accepter de s'asseoir dans le mystère et offrir notre présence silencieuse?